Quelle grâce de nous approcher de toi, de communier avec toi, Seigneur, et d'accomplir ainsi notre première vocation, qui est celle donc de te servir à partir du Saint des Saints, te servir, Seigneur, véritablement et en esprit, lorsque nous sommes là, Seigneur, dans ton palais céleste. Palais, ô Dieu, dans lequel nous entrons par et au travers de Jésus-Christ, et dans la puissance de ton esprit. Car tu es esprit, Seigneur. Il faut que ceux qui t'adorent, ô Père, t'adorent en esprit en vérité. Merci d'avoir agréé ce temps de louange, ce temps d'adoration, non seulement d'avoir reçu, d'avoir, Seigneur, accueilli favorablement nos prières, mais aussi merci de nous avoir accueillis nous-mêmes en ta présence. Quelle grâce de t'appartenir, de faire partie, Seigneur, de ton peuple. Quelle grâce d'être de ceux et celles, Seigneur, que tu as mis à part pour qu'ils t'appartiennent pour l'éternité. Merci pour tout. Nous voulons maintenant, Seigneur, avec humilité, nous asseoir à tes pieds et te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Nous avons soif de ta présence. Certes, nous avons aussi soif de ta parole. C'est ta parole qui est une véritable lumière pour nous, une lampe, Seigneur, sur notre sentier. Alors que nous poursuivons notre pèlerinage ici-bas, en route pour l'éternité, nous avons besoin de ta parole pour connaître le chemin, Seigneur, qui conduit tout droit vers toi, pour demeurer dans ta lumière. Oui, nous avons besoin de ta parole. Alors, parle-nous. Utilise, Seigneur, cet outil avec ses limites, ses faiblesses, ses imperfections, pour transmettre ce qui est parfait, pour transmettre ce qui est pur, et que cela soit accueilli, reçu dans nos cœurs. Seigneur, avec joie, avec enthousiasme, avec foi, avec confiance. Merci pour tout. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Bien, nous allons continuer avec notre thème. Nous sommes dans cette pensée depuis plusieurs dimanches et ça vaut la peine. Car après tout, mes amis, nous ne pouvons fleurir, nous ne pouvons bourgeonner, nous ne pouvons produire du fruit pour la gloire de notre Dieu, pour la gloire de notre Père, de fruits qui soient une réelle bénédiction et pour nous et pour notre entourage. Oui, nous ne pouvons le faire que dans la mesure, mes amis, où nous apprenons à demeurer dans la présence du Seigneur, dans la mesure où nous apprenons à nous abandonner entièrement entre ses mains. C'est là, depuis le Saint des Saints, c'est là, dans sa présence, que lui, le divin potier, va poursuivre ce travail de régénération, de renouvellement, va poursuivre ce travail de transformation, mes amis. Car ce que nous sommes, eh bien, vaut plus que tout ce que nous pourrions avoir. Devant Dieu, c'est d'abord l'être qui compte. Devant Dieu, c'est d'abord ce que nous sommes. Alléluia. Et donc, nous voulons parler une fois de plus sur l'entrée du lieu secret. Nous allons donc poursuivre avec cette odyssée merveilleuse de notre cœur, ce voyage extraordinaire de notre cœur vers le cœur de Dieu. Et ce voyage ne peut arriver à destination, c'est-à-dire devant le trône de la grâce, sans passer forcément par l'antichambre du palais céleste, sans passer forcément par le vestibule, par cette espèce de salle d'attente, où après avoir obéi aux différentes recommandations que nous examinons depuis pas mal de temps, alors seulement nous franchirons les portes éternelles du palais céleste, et alors seulement nous entrerons dans sa présence et nous le contemplerons dans toute sa gloire, dans toute sa bonté. C'est alors que nous serons en résonance avec l'atmosphère, avec l'ambiance qui règne. Et nous en reparlerons, car il est important de s'imprégner de l'atmosphère qui règne là dans le Saint des Saints. Voyez-vous, pour ne pas être distrait, pour que les pensées du moi, du monde et d'autres eh bien, ne puisse pas nous perturber. Et pour cela, nous devons être remplis de l'atmosphère, de l'ambiance qui règne là dans le Saint des Saints. Nous en reparlerons. Pour le moment, nous sommes encore au vestibule. Pour le moment, nous sommes encore dans l'antichambre et en train de nous préparer à construire enfin le dialogue avec notre Dieu. L'entrée du lieu secret. C'est donc le cinquième épisode. Et nous allons relire une fois de plus. Ce texte est tiré du Sermon sur la montagne. Discours majestueux que le Seigneur fit sur cette montagne. Discours qui est donc, qui constitue la base de notre foi, qui est la charte, quelque part, du chrétien. Nous allons lire les 9 premiers versets du chapitre 6 de Matthieu, qui commence par cette mise en garde. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous l'ai dit, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, voilà, là commence l'entrée de la salle d'attente. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra, te récompensera. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et enfin, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Avant d'arriver à ce verset 9, avant de s'attendre à ce que nous arrivions dans la présence du Seigneur et que nous nous mettions à dialoguer avec lui, à construire notre dialogue, eh bien, il y a ce passage obligé par l'antichambre. Il y a donc ce passage obligé qui nous fait passer par cette antichambre qui repose une fois de plus sur les 6 recommandations que nous examinons depuis déjà plusieurs dimanches. Nous ne pouvons pas accéder, aspirer, mes amis, à avoir des moments intimes, profonds et passionnants, des moments intimes et intenses, si nous ne passons pas par ce vestibule, par cette antichambre, avant enfin de se tenir devant les portes éternelles du palais céleste et d'y entrer pour enfin, in fine, communiquer, dialoguer, prier notre Père. Voici donc, ça veut dire qu'il y a des choses que nous devons faire en amont avant d'arriver à ce point où enfin nous allons nous mettre à construire notre dialogue avec notre Père. Alléluia et gloire au Seigneur. Dieu a une attente par rapport à chacun de nous. Il nous a sauvés, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Il nous a libérés de l'incrédulité. Nous étions autrefois esclaves, esclaves de ce monde en perdition, esclaves de ce moi déformé, défiguré par le péché, esclaves du diable. Nous étions donc sous l'influence macabre, morbide, diabolique, malfaisante des démons. Et puis un jour, le Seigneur a posé son regard sur nous. Un jour, il a posé sa main toute puissante. Un jour, il nous a permis de réaliser que nous étions des pécheurs, des hommes et des femmes qui étaient sous la colère de Dieu de par notre vie de péché et de pécheur. Et puis ensuite de réaliser, mes amis, la nécessité, l'importance, le besoin de nous réconcilier avec Dieu en acceptant Jésus après s'être repenti. Et depuis ce jour-là, mes amis, nous faisons partie du royaume des cieux. Nous sommes devenus des enfants de Dieu à part entière. Il n'y a rien à discuter, la parole de Dieu est formelle. Et je reviendrai là-dessus. La parole de Dieu est claire. Nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Et en tant qu'enfants de Dieu, en tant que membres de cette communauté sacerdotale, en tant que citoyens d'en haut, citoyens du ciel, eh bien, le Seigneur nous adresse sa vocation, la première vocation, l'ultime vocation, la plus grande, une vocation cardinale. Eh bien, c'est celle de communier avec lui au-delà du voile. C'est celle d'entrer dans sa présence et de le contempler. Voilà pourquoi le Seigneur dit, voici comment vous devez prier. Notre Père des cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. Mais avant cela, il est donc important que nous puissions nous préparer. Nous avons déjà parlé des 4 recommandations, 4 des 6 recommandations qui constituent la clé dont nous avons besoin, mes amis, pour pouvoir enfin nous tenir devant les portes éternelles du palais céleste et y entrer. 4 recommandations, 4 injonctions d'une importance capitale si nous voulons que nos vies, mes amis, changent, nos vies soient transformées, nos vies reflètent, resplendissent sur cette terre et contribuent à la gloire de notre Père. 6 recommandations. La fois dernière, il a été question de la 4e recommandation. Après avoir rempli les 3 précédentes recommandations, la première, c'est-à-dire, la première, je vous rappelle, répondre à l'exigence de vérité. Quand nous nous approchons de Dieu, nous devons être vrais. Nous devons laisser tomber le masque. Pas de faux semblants. Nous devons nous débarrasser de l'hypocrisie. Nous devons être authentiques. Être nous-mêmes. Nous devons faire preuve d'humilité et de simplicité. C'est tout le sens de ce que le Seigneur dit. Ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme ces religieux qui aiment prier, qui aiment à prier dans les synagogues en levant les mains pour attirer le regard des uns des autres sur eux. Non. L'exigence de vérité est fondamentale dans cette communion avec le Seigneur. Mais aussi l'exigence de discrétion. Pourquoi tout le monde, pourquoi devrions-nous chercher à attirer le regard des uns des autres sur nous, au risque de leur envoyer une fausse image de ce que nous sommes véritablement? Voilà pourquoi la Bible nous appelle à être discrets, à fuir le regard des autres, car le regard des autres est trompeur. Le regard des autres, mes amis, n'est pas vrai. Le regard des autres peut être soit dévalorisant, ou soit valorisant, ou survalorisant. Voilà. Les autres peuvent nous surestimer, alors qu'aux yeux de Dieu, nous ne sommes nulle part. Notre vie est en abomination à ses yeux. Mais nous donnons l'impression d'être des hommes et des femmes extrêmement spirituels, de par notre démarche, de par notre manière de parler. Voyez, quand il faut prier, alors il faut que tout le monde, eh bien, sache que nous prions mieux que quiconque. De telles attitudes, mes amis, nous maintiennent vers le bas. De telles attitudes sont comme des forces de pesanteur qui nous attirent vers le haut et vers le bas, alors que nous cherchons à nous élever vers celui qui habite là-haut. Alléluia, notre Père. Deuxième exigence, plutôt, deuxième point. Entrer dans notre taméon, dans notre chambre, nous retirer, où que nous soyons. Nous pouvons entrer dans notre chambre, voyez-vous, car Dieu est esprit, et l'esprit de Dieu ne peut pas être cantonné dans un lieu. c'est dire, tiens, il faut absolument aller dans ces lieux-là pour prier Dieu. Non, Dieu est esprit. Alléluia. Nous pouvons entrer en communion avec lui où que nous soyons. C'est à nous de nous retirer, d'aller au plus profond dans notre chambre la plus intime, même lorsque nous sommes entourés des gens. Et là, nous mettre à dialoguer, à louer, à adorer le Seigneur. Enfin, pendant que nous entrons dans notre chambre, pour ne pas être dérangés, nous devons fermer toutes les portes. Aussi bien les portes extérieures, mais aussi les portes intérieures. Car il y a dans chacun de nous, mes amis, dans tout homme, par ailleurs, une tendance, un penchant à la rêverie et à toutes sortes de séductions. Nous aimons beaucoup rêver, oui ou non? Juste au moment où on veut prier, eh bien, toutes sortes de pensées commencent à défiler en nous. Tout se met à bouillonner en nous. Nous voilà, quand nous étions jeunes, nous voilà en train de jouer au foot, nous voilà en train de revivre ceci ou cela. C'est une tendance qui est intimement liée à notre chair, dont nous devrions et nous devons absolument nous en débarrasser. Et donc, après ces trois recommandations, nous arrivons à la quatrième. Alors, prie ton Père qui te le rendra. Prie ton Père qui te récompensera. Oh, alléluia. Le Père qui veut nous récompenser, qui veut nous rémunérer, qui veut nous le rendre, eh bien, cette promesse du Dieu qui récompense tous ceux qui le cherchent, tous ceux qui marchent avec lui dans la foi et avec confiance, eh bien, cette promesse est une constante dans la parole de Dieu depuis l'Ancien Testament. Nous pouvons voir comment Dieu a rémunéré, eh bien, notre patriarche dans la foi, Abraham, n'est-ce pas, qui a pris des résolutions fermes de suivre Dieu sans savoir où il allait. Voyez, il n'avait pas de boussole, il n'avait pas de GPS. Dieu ne lui avait pas tracé à l'avance la route qu'il devait suivre. Mais il lui a donné simplement sa parole. Et il devait partir par la foi. Et le risque qu'il avait pris, car la foi est un risque, mais c'est un risque pour Dieu. Et quand on prend un risque avec Dieu pour Dieu, on n'échoue jamais. On finit toujours, mes amis, par remporter. C'est lorsque nous prenons des risques pour nous-mêmes, lorsque nous prenons des risques en nous appuyant sur nos capacités, nos compétences, notre puissance cérébrale, en nous appuyant sur les hommes quels qu'ils soient, qu'alors l'échec pourra se pointer à l'horizon. Mais quand on prend le risque d'obéir à la parole de Dieu, quand bien même tout le monde serait contre nous, quand bien même cette voie dans laquelle, eh bien, nous nous retrouverions à cause de notre obéissance à la parole de Dieu, serait une voie, eh bien, où tout est obscur, tout est nébuleux, eh bien, avec Dieu, nous finirons par avancer et par triompher. Alléluia. Et gloire à Dieu, Seigneur. C'est une évidence de l'amour de notre Père. Comment se pourrait-il que ce Père, qui est rempli d'amour pour nous, ce Père compatissant, ce Père, mes amis, rempli de bienveillance, comment ne puisse-t-il pas nous rendre au centuple toutes ces démarches que nous amorçons pour lui? Il y a une récompense à la clé. Alléluia. Il y a une récompense, même dans le monde. Lorsque quelqu'un vous a fait du bien, eh bien, tôt ou tard, dès que vous avez une occasion, vous faites quoi? Vous le remerciez, oui ou non? Vous honorez sa fidélité, son engagement. Vous le remerciez d'une manière ou d'une autre en lui donnant un poste ou que sais-je, parce qu'il aura été fidèle, parce qu'il aura été de tous les combats. Si les hommes peuvent avoir cette once de gratitude dans leur cœur, à combien plus forte raison notre Dieu? Alléluia. Oui, il te le rendra. Prends la résolution d'entrer régulièrement dans sa présence, peu importe que tu aies des problèmes ou pas. Et de toute façon, notre vie est déjà un problème. Vous connaissez quelqu'un qui n'a pas de problème? Ce sont les morts, c'est fini. Leur corps retourne à la poussière, il n'y a plus de problème. Le seul problème maintenant, c'est avec Dieu. Mais tant que nous sommes dans ce corps, nous aurons toujours des problèmes. Des problèmes avec les voisins, qui font beaucoup de bruit, on n'arrive pas à dormir. Des problèmes avec les collègues, des problèmes avec la famille. Les problèmes avec, oui, le monde lui-même est un problème. Donc vous voyez, nous avons tous des problèmes. Mais peu importe ce problème, ce que Dieu attend, c'est que nous oublions tout cela et que nous nous concentrions sur lui. Car tôt ou tard, il finira par nous rémunérer. Et la rémunération du Seigneur, comme nous l'avons vu, est une rémunération tous azimuts. C'est-à-dire qu'il va dans tous les sens. Dans le sens de la bonne santé, dans le sens de la santé financière, dans le sens du matériel, dans le sens affectif. Bref, quand nous sommes avec lui, nous le recherchons une récompense en répandant sur nous toutes sortes de grâces, et ce, en rapport avec nos besoins, nos attentes, quelles qu'elles soient. Amen. Et après cette quatrième recommandation, eh bien, nous voici arrivés à la cinquième, l'avant-dernière. Et les deux vont ensemble, voyez, car elles concernent la construction que nous sommes appelés à avoir avec Dieu dans le cadre de notre dialogue. Quand vous devez parler à quelqu'un, vous vous préparez, oui ou non? Voilà, qu'est-ce que je veux dire? Même pour prêcher, je peux vous assurer que c'est une tâche difficile. Je prêche depuis plus de 30 ans. Mais pour moi, chaque prédication est un défi. Ça, je vous le dis. Oui, certains s'amusent. Hein. Ils font du théâtre. Hein. C'est des véritables cabotins. Hein. C'est des acteurs quand ils sont derrière, la main dans la poche, ils s'y flottent et tout ça. Amen, Dieu vous aime. Amen, amen, ma sœur, Dieu t'aime. Amen, amen, viens. Hop, assieds-toi. 3 heures, Dieu vous aime et puis ça s'arrête là. Vous voyez? C'est toujours un défi, n'est-ce pas? Et donc, à la cinquième recommandation, le Seigneur dit, nous continuons, en priant à, ou lorsque vous priez, en priant, c'est verset 7 de Matthieu, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne multipliez pas de vaines paroles. Vaines paroles. Certaines traductions disent ceci, ne rabâchez pas des tas de paroles. Ne répétez pas sans fin les mêmes choses. C'est ça, rabâcher. Répétez continuellement les mêmes choses. Voilà. Comment peut-on parler d'un dialogue? Vous arrivez devant quelqu'un, la même chose. Tu vois, j'étais en ville, je suis parti. Tu vois, cet homme-là m'a regardé bizarrement, Seigneur. Vraiment en ville. Tu rabâches des tas de paroles inutiles. Ne multipliez pas des paroles vaines. Alors, donc là, nous sommes dans le domaine du dialogue, oui ou non? Et si nous voulons vraiment parler au Seigneur, nous devons éviter cela. Vaines paroles. Rabâcher des tas de paroles, répéter des paroles, les mêmes paroles, les mêmes choses, sans fin, comme font les païens. C'est une des caractéristiques des païens. Regardez, mes amis, les gens qui ne sont pas chrétiens, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont des prières qu'ils récitent comme des perroquets. Oui ou non? Ils ont des formules toutes faites. Je bénis le Dieu des cieux, je bénis le Dieu des cieux. Je bénis le Dieu de ceux, je bénis le Dieu de ceux, je bénis le Dieu de ceux. Quelquefois, ils ont un rosaire ou un chapelet, enfin, pour se rappeler. Et quelquefois, ils envoient des semaines. Je bénis le Dieu de ceux, je bénis le Dieu de ceux, je bénis. Le Seigneur dit, il ne faut pas leur ressembler. C'est ça de rabâcher. Alors, par rapport à vaines paroles, il faut savoir que le verbe grec correspondant, et qui a été traduit par des vaines paroles, dire des vaines paroles, multiplier de vaines paroles ou rabâcher des tas de paroles, ce verbe-là n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament. On ne le trouve nulle part. Il y a un terme technique qu'on utilise en philologie, c'est un apax. C'est-à-dire, c'est un mot qu'on ne trouve qu'en cet endroit. Depuis l'évangile de Matthieu, jusqu'au livre de l'Apocalypse, ce mot n'apparaît pas. Voilà. Et donc, Tout ça, c'est ce qui explique un peu différentes traductions, paroles vaines, mais ça va dans ce sens-là. Rabâcher les mêmes choses qui quelque part, sonnent creux. Vous voyez? Ne multipliez pas les vaines paroles. En d'autres mots, ne répète pas sans fin les mêmes choses. Le Seigneur condamne toutes ces vaines redites. Voilà. Il y en a qui ont des moulins de prière. Hein. Vous savez ça? Oui. Ils tournent le moulin, c'est sa prière. Les bouddhistes. Enfin, une tendance du bouddhisme. C'est pas sa prière. C'est pas ça. Mes amis, par cette injonction de ne pas rabâcher des tas de choses inutiles, de ne pas dire, répéter les mêmes choses, mais aussi par cette comparaison, parce qu'il dit, comme les païens, donc ne soyez pas comme eux, le Seigneur nous rappelle, mes amis, une grande vérité. Il nous rappelle que par la nouvelle naissance, par la naissance d'en haut, par cette expérience que nous avons faite depuis que le Seigneur est venu dans notre vie, eh bien, par cette nouvelle naissance, nous avons reçu une nouvelle nature. La nature même qui nous vient d'en haut. Alléluia. La nature céleste. Autrefois, nous étions des êtres strictement terrestres, une nature corrompue, oblitérée par le mal et par le péché. Mais avec la naissance d'en haut, nous recevons une nouvelle nature. Et avec cette nouvelle nature, eh bien, la Bible nous dit que nous acquérons un statut qui fait de nous des gens radicalement différents des autres. Oh, alléluia. Radicalement différents du reste de l'humanité. Oui, nous sommes tous pareils quand on nous regarde. Mais au fond, nous sommes différents. Alléluia. Il y a en nous, mes amis, une réalité céleste. C'est que le Dieu de Dieu habite en nous. Je le vous l'ai dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole, je ne me fais que l'écho de la parole de Dieu. Et toute notre foi doit reposer sur les prescrits, sur les déclarations de la parole de Dieu, et non pas sur ce que les uns et les autres pensent ou penseraient. En Jésus-Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes entrés dans un monde nouveau, dans une nouvelle réalité. Nous faisons partie du royaume des cieux. Tout en étant sur terre, eh bien, nous appartenons au royaume des cieux. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous rappelle que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des étrangers. Nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes des touristes en route vers notre vraie patrie. Et en tant que tels, nous devrions tout faire pour ne pas nous comporter, nous conduire comme si nous étions des hommes de la terre. Certes, nous venons de la terre, mais notre destinée est au-delà de l'espace et du temps. Alléluia. C'est pourquoi la Bible qualifie de folie indescriptible que le fait de vouloir vivre ou de vivre en ne tenant compte que des réalités matérielles. Vivre comme si nous étions vraiment chez nous. Personne n'est chez lui sur cette terre. Nous sommes tous des étrangers. Nous sommes tous en route. Il y a 2 siècles, ici à Kinshasa, ça ne s'appelait pas encore, je ne sais pas comment ça s'appelait. Eh bien, il y a 2 siècles, il y avait des habitants. Où sont-ils aujourd'hui? Et là où certains ont été enterrés, aujourd'hui, il y a des maisons. Oui ou non? Eh bien, sachez que vous aussi, nous aussi, nous connaîtrons le même sort. D'autres viendront. Et puis aussi partiront. Voilà pourquoi, même pour les Israélites, Dieu après leur avoir donné la terre promise, il leur a dit, n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Vous êtes des pèlerins. Vous êtes des immigrés. Dieu rappelle ça à Israël. Et puisque vous êtes des immigrés, vous êtes chez moi. Alors n'oubliez pas votre devoir d'aimer les immigrés, ceux qui ne sont pas de la nation d'Israël, mais qui sont avec vous. C'est une recommandation. Voilà pourquoi nous devons combattre la xénophobie sous toutes ses formes. Oh, il est du Kassai, mais alors, oh, il est de Bandung, regardez sa tête, alors. Dieu est mort pour tous. Dieu n'aime pas une ethnie plus que d'autres. Des fois, nous laissons des sentiments xénophobes, des sentiments tribaux ou tribalistes nous envahir. Et en même temps, nous avons le nom de Jésus dans la bouche. Non, tu n'as pas d'exclusivité quant à l'amour de Jésus. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé qu'il a donné son fils. Jésus aime tout le monde du même amour. Alléluia. Il n'aimerait pas plus les uns et moins les autres. Non, il t'aime mon frère. Il t'aime ma sœur. Même ceux qui ne le connaissent pas encore, qui sont de l'autre côté de la barrière, dans le monde, il les aime. Hein? Nous aussi, autrefois, nous étions de ce monde-là. Hein? Et il a posé sa main, il nous a tirés de là. Il nous a libérés de tant de pesanteurs. Mes amis, pour nous introduire dans son royaume de lumière. Eh bien, ceux qui sont encore dans le monde sont aimés de Dieu. Et nous devons aller vers eux pour leur apporter l'amour du Seigneur. Alléluia. Et gloire à Dieu. Le monde ancien est passé. Voici qu'une nouvelle réalité est là, dans laquelle nous sommes entrés. C'est ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que la Bible dit que tu es. Et non pas ce que les uns et les autres pensent que tu serais. Non, la Bible dit que depuis le jour où Jésus est venu en moi, depuis le jour où j'ai connu la nouvelle naissance, je lui appartiens. Il m'aime. Je suis son enfant. Puisqu'il en est ainsi, nous devons alors être conscients de notre différence. C'est tout le sens de la comparaison. Voilà, il y a cette injonction, ne multipliez pas des paroles vaines. Ne rabâchez pas des tas de paroles vaines. Voyez, et puis il y a la comparaison. Comme font les païens. Comme font ceux qui ne sont pas avec moi. Comme font ceux qui ne me connaissent pas. Et ils pensent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ils pensent qu'à force d'aller en pèlerinage dans tel endroit ou dans tel autre endroit, eh bien, ils seraient bénis. Voilà. Ne soyez pas comme eux. Nous devons donc être conscients de notre différence, de notre singularité. Tu es un enfant de Dieu, mon frère et ma sœur. L'apôtre Paul, qui avait compris, lui qui était un juif intégriste, un juif fanatique, lui qui faisait tout pour plaire au Dieu de ses pères, en observant la loi de manière stricte, en menant une vie légaliste, lorsque le Seigneur se révèle à lui sur le chemin de Damas, cet homme comprend qu'il était dans l'erreur. Cet homme comprend que malgré son appartenance à la nation d'Israël, malgré toute la connaissance qu'il avait du judaïsme, de la loi de Moïse, cet homme comprend que malgré qu'il soit issu d'une des 12 tribus d'Israël, il était loin du Seigneur. C'est à partir de son expérience sur le chemin de Damas que Paul rencontre enfin le Seigneur. Et Paul devient une nouvelle créature. Alléluia. Écoutez ce qu'il écrit dans Romains 8, verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, un esprit d'esclavage, pour être encore ou pour être de nouveau dans la crainte. La crainte caractérise notre monde, n'est-ce pas? La peur de la mort, peur du lendemain. On ne sait pas ce qui va arriver demain, qu'est-ce qui va advenir, etc. Voyez-vous, c'est la marque du monde, voyez? Et le Seigneur nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore, pour être de nouveau dans la crainte. Mais, Mais, lisez avec moi, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba ». C'est la parole de Dieu qui le dit. Hein. Nous avons été adoptés. Nous sommes devenus co-héritiers de Christ et avec Christ. Alléluia. Nous sommes donc devenus des fils et des filles du Père Céleste. Alors, comportons-nous, conduisons-nous avec notre Père des cieux comme font tous les enfants avec leurs parents qui les aiment. Comment les enfants parlent-ils à leurs parents? Je parle des vrais parents, pas des parents sadiques, irresponsables. Le papa, c'est un véritable disciple de Bacchus. Il revient à la maison tout le temps bourré. Et quand il arrive, tout le monde se met à trembler. Voilà, donc je parle des parents normaux, des parents qui assument leur rôle de parents, qui savent que les enfants ont besoin d'amour, que c'est dans une atmosphère marquée par l'amour qu'ils sont appelés à grandir et à développer chacun sa personnalité, n'est-ce pas? Alors comment ces enfants, ou les enfants en général, parlent-ils à leurs parents? Dites-moi, emploient-ils des formules toutes faites qu'ils répètent mécaniquement, machinalement, lorsqu'ils vont vers leurs parents pour leur parler? Absolument pas. Certainement pas. Ils n'arrivent pas à dire, « Papa, bonjour, papa, tu es le plus beau. » Non. L'enfant sait que c'est mon père, c'est ma mère. Je suis sorti de son sein. Ce sont mes parents qui m'aiment. Ce sont mes parents. Si j'ai un besoin, où irai-je? Si ce n'est vers eux, en leur disant, papa, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Maman, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Ils viennent, ils s'adressent avec leurs parents, ils s'adressent à leurs parents, ils parlent à leurs parents avec leur cœur. Oui ou non? Pas avec des formules préparées. Ils parlent avec spontanéité. Il parle avec confiance. Il sait que même si cette demande est difficile et qu'elle rencontre un refus, et que le papa dise non, il n'est pas du tout question. Ils savent que derrière ce ton, il y a toujours l'amour. Et que même s'ils ne comprennent pas aujourd'hui, même s'ils ne comprennent pas demain, mais un jour, ils comprendront pourquoi papa avait dit non. Ils parlent avec leur cœur. Ils parlent de manière spontanée. Ils parlent avec confiance, avec assurance, sans se poser trop de questions, sans se dire, est-ce vraiment mon papa? Hein? C'est mon papa? Peu importe que le papa soit habillé en uniforme à cause de ses responsabilités, que le papa soit habillé en costard, cravate, ou que le papa sorte de la chambre à coucher en pyjama, ben, pour l'enfant, il est qui? Il est son papa. Il va lui parler. Les vêtements ne changent rien quant à ce qu'il est pour lui. Ce ne sont que des vêtements en rapport avec le contexte. Dans un contexte, papa doit s'habiller en costume, il doit sortir et tout ça. Dans un autre contexte, papa va aller faire du sport. Il met un training, n'est-ce pas? Il ne va pas mettre, comment, Jamie Winston? Oui, Biango. Non, il va mettre quoi? Il va mettre des baskets. Voilà. Dans une autre occasion, mais papa va s'habiller peut-être en boubou, parce qu'il fait très chaud. Voilà. Voilà. Au lieu de mettre ses chaussures, comme il fait très chaud, ben, il met ces espèces de sandales qu'on trouve en Afrique de l'Ouest, qui sont comme des pirogues, là. Donc pour l'enfant, tout ça ne change rien quant à sa relation. Eh bien, notre Père Céleste, attend donc de notre part ce même comportement, car nous sommes ses enfants. Quand nous nous approchons de lui, parlons-lui avec cœur, avec notre cœur, avec confiance, Il n'est pas là comme un gendarme. Il n'est pas là comme un magistrat véreux. Ah, tu vois, j'ai vu que tu as cligné de l'œil à cette femme ou à cet homme. Tu vois, je vais te dresser un procès, je vais te condamner. Non, son esprit est là, de toute façon à nous. C'est l'esprit qui nous interpelle, qui nous montre que nous n'avons pas eu un comportement digne. Et en même temps, son esprit nous convainc. Il nous amène à réaliser le bien fondé de nous tourner vers notre Sauveur, qui est notre avocat auprès du Père, qui est notre intercesseur auprès du Père, qui est notre souverain sacrificateur auprès du Père. Vous voyez, nous approcher de lui pour solliciter le pardon. Alléluia. Nous sommes ses enfants. L'apôtre Jean, qui a marché longtemps avec le Seigneur, c'est le seul apôtre qui a vécu presque un siècle. Et tous sont morts. Sont morts. Lui, il a vécu. Eh bien, dans sa marche avec le Seigneur, dans ses longues années de marche avec le Seigneur et de son ministère, il avait fini par comprendre beaucoup de choses. Et là, il nous donne une révélation extraordinaire dans 1 Jean 3, verset 1er, la première partie du verset 1er. Écoutez ce qu'il dit. « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le... » Lisez avec moi. Et nous le... Pas nous le serons. Hein. Pas nous le serons, c'est un état. C'est un statut. C'est une dignité. C'est un rang. Nous le sommes. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Voilà pourquoi le diable te hait. Tu es enfant de Dieu. Voilà pourquoi il cherche par tous les moyens à te distraire, à te séduire, à t'écarter du bon chemin. Voilà, tout d'un coup. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et il ajoute, nous le... Gloire à Dieu. Ne vaut-il pas la peine d'acclamer une telle déclaration? Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne cherchons pas à le devenir. Nous ne cherchons pas à l'acquérir par la force ou par les jeunes, par ceci, par le ministère, que sais-je. Non! Nous le sommes parce que nous sommes en Christ, parce que Jésus habite en nous, parce que nous sommes nés de nouveau, parce que nous sommes un peuple qui lui appartient. Vous savez tous, il est de notoriété publique que les membres d'une cour royale savent qui ils sont. Il y a des royautés, des royaumes et des royautés en Europe. Et vous avez des membres de toutes ces cours royales. Et laissez-moi vous dire une chose. Tout le monde sait. Et eux-mêmes les concernés en sont conscients, c'est-à-dire les membres de la royauté. Ils sont absolument conscients de leur rang et de leur dignité. Ainsi, un prince conscient de son rang et de sa dignité, une altesse royale, consciente des privilèges liés à son rang ou des privilèges que lui confère sa dignité de prince royal, ne cherchera jamais, mes amis, à imiter les serviteurs et tous ces gens qui travaillent à la cour royale. Oui ou non? Au contraire, souvent ce sont les serviteurs qui essaient de s'imprégner. Ah, le prince, quand il sort, il est toujours bien habillé. Ah, mais oui, parce que le prince est tenu à un certain protocole. Voilà. Donc, ils le savent. Ils sont conscients de leur dignité. Voilà. Ils savent qu'en sortant et à bord d'un véhicule officiel, eh bien, ils ont priorité. Ils n'ont pas besoin de prendre un parlophone, de sonner du tocsin, pour que tout le monde sache que C'est moi le prince, comment il s'appelle? Le prince héritier du royaume de Britannique, William. Ouh, c'est William. Vous ne voyez pas ma calvitie? Non. Les gens savent, ah tiens, ça c'est le carrosse royal. Les gens savent, ça c'est le véhicule royal. Eh bien, tout le monde se met au garde-vous, au garde-à-vous. Tout le monde s'arrête. D'ailleurs, c'est même une joie de le voir. Oh, prince, vous voyez? Ces gens sont conscients de leur rang. Ils sont conscients de leur dignité. Ils sont conscients des privilèges liés à leur rang. Ils ne sont pas appelés à se comporter comme ceux qui travaillent à la cour. Ces gens qui travaillent à la cour sont à la cour, mais ce sont des serviteurs. Oui ou non? Et le Seigneur dira, vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes mes amis. Alléluia! Vous êtes des enfants. Vous pouvez désormais, par le Saint-Esprit qui habite en vous, dire « Abba, Père, mon papa ». Mes amis, le Seigneur nous demande, et nous allons nous arrêter là, à être conscients de notre identité en Christ, à être conscients de notre différence, de notre singularité par rapport à ceux du monde, par rapport à ceux qui n'ont jamais connu Christ, qui n'ont jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance, par rapport aux païens. Les païens ont leur manière de conduire, de se conduire, de se comporter, ont leur manière d'exprimer leurs sentiments religieux. Mais le Seigneur nous dit, ne soyez pas comme eux, car ces gens s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Mais vous, vous êtes des enfants. Vous, vous êtes ses fils et ses filles. Alléluia. Alors quand vous approchez de lui, sachez que vous approchez votre Père. Approchez-le avec le cœur et parlez-lui avec votre cœur, avec assurance. Maintenant, s'il y a eu un péché, pleurez devant lui, en sachant qu'il est miséricordieux, en sachant que Christ a tout accompli à la croix, en sachant qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner lorsque nous reconnaissons nos mal. Et après avoir été pardonné, ne donnons pas l'occasion au diable pour venir susciter en nous certains sentiments de compunction ou de misérabilisme. Non, nous verrons ça plus tard. Il m'a pardonné, c'est tout. Certes, le péché peut frôler encore mon esprit. Ce n'est pas pour autant que Dieu ne m'a pas pardonné. Car il y en a qui disent, si tu n'as pas oublié, mais attention, nous avons une mémoire. Hein. On n'oublie pas comme ça... sur un coup de baguette, hein. On ne peut pas effacer comme dans un programme informatique. Ok, delete. C'est parti. Mais là, c'est peut-être des choses qui nous ont marquées. Voyez-vous? Et donc, nous pouvons nous en souvenir, mais sans que cela puisse avoir un impact négatif. Nous nous en souvenons, l'ennemi vient nous rappeler, toi là, tu ne peux pas aller loin, regarde comment tu es. Tu as oublié la semaine passée ce que tu as fait. Comment tu as culbuté? Comment tu t'es transformé en un petit homme de théâtre? Tu as fait ça, non? Eh bien, oui, c'est vrai, oh Seigneur. Oh là là. Oh Dieu. Je ne suis qu'une chenille. Un Mais on t'a déjà pardonné. Le Mousseleketa a été pardonné. Ça, c'est l'ennemi qui essaye de vous écraser et de semer le doute en vous. Et c'est comme ça que certains s'égarent. N'oublions pas, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui? Il rugit. Et quelquefois nous tremblons. Non! C'est lui qui est en nous. C'est lui qui est avec nous. Et plus fort que ce lion rugissant, plus fort que tous les démons qu'il y a dans ce monde, plus fort que n'importe quel adversaire, à la croix il a vaincu pour nous, à la croix il a triomphé pour nous, et en lui nous sommes plus que vainqueurs. Acclamons son nom. Gloire au Seigneur. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous sommes arrivés donc à la cinquième recommandation. n'est pas multiplier des paroles vaines, rabâcher, répéter tout le temps la même chose. Voyez, voilà pourquoi la préparation est indispensable. Lorsqu'on est préparé et quand on entre, eh bien, on construit un vrai dialogue. Mon père, mon papa, je sais que tu es là. Avant même que je vienne à toi, avec toutes ces choses qui me préoccupent, je sais que toi, tu le sais déjà. Mon père, d'abord, merci. Voilà, on lui parle. Alors, je voudrais que nous lui parlions maintenant, avant de prier pour les offrandes, et puis ensuite de passer aux différents communiqués déterminés par la prière. Parle à ton père qui est là. Parle-lui. Répands ton cœur en sa présence. Il est là, assis sur son trône, ses bras grandement tendus vers toi. Tu n'as pas besoin de répéter des mots comme un perroquet. Tu n'as pas besoin de laisser ta langue distiller n'importe quelle parole. Il faut que cela vienne de ton cœur, comme un enfant parle à son père ou à sa mère. Notre Père, Père des cieux, tendre Père, doux Père, Père de lumière, Abba, Papa, Baba, tu es là au milieu de nous. Plus qu'au milieu de nous, tu es là devant moi. Et je te bénis pour ce privilège que j'ai de m'approcher de toi, pour te parler, pour te louer, pour proclamer ton nom. Père, tu es merveilleux. Merci de m'avoir parlé et de m'aider à avoir une bonne communion avec toi. Merci de m'aider à mettre en pratique toutes ces recommandations qui contribuent à ma préparation avant d'entrer dans le Saint des Saints et de paraître devant toi. Tu es majestueux. Tu es là, brillant plus que toutes les étoiles de l'univers. Tu es là, environné de gloire et de majesté. Tu es là à recevoir, Seigneur, la louange, l'honneur, la majesté, l'adoration, la reconnaissance de toutes les créatures d'en haut. Mais en même temps, tu es là et tu reçois ma prière. Quel privilège! Quel privilège j'ai! Seigneur, merci. Aide-moi à grandir dans ce domaine de la prière. Aide-moi à passer plus de temps avec toi, car tôt ou tard, tu finiras par me récompenser, par récompenser cette démarche. Toi qui es amour, plein de bonté et de bienveillance, toi qui es compatissant et miséricordieux. Merci pour tout. Merci, Maître.